BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot. Erwan Maurice.
Bonjour à tous, c'est l'heure de votre émission RH. Bienvenue dans Happy Boulot, on est ensemble pendant une demi-heure. Au programme de cette émission, CARA, le cabinet spécialisé en management de transition, teste depuis le début de l'année un nouveau contrat, un CDI dit agile. On fera le bilan de ce test qui dure depuis 6 mois avec son directeur général, Steven Poineau. Dans 10 minutes, c'est la séquence service de notre émission avec nos avocats en droit du travail qui répondent à vos questions et avec vous aujourd'hui, Camille Bourg, bonjour.
Bonjour Erwan, aujourd'hui c'est Sabrina Kemel, avocate associée au cabinet FTMS Avocat, qui nous dira quelles démarches effectuer en cas de burn-out. Écrivez-nous vous aussi pour interpeller nos experts à l'adresse happyboulot@bfmbusiness.fr.
Vous faites du sport entre deux émissions, Camille ?
Un petit peu, j'essaye.
Le sport au travail, en tout cas, ça sera le sujet du meeting. Ça se fait peut-être dans votre entreprise. Les employeurs ont bien compris que cela participe souvent à remotiver les troupes. Un vrai business qui se développe depuis quelques années. Et puis, vous cherchez peut-être du travail. Que diriez-vous de laisser une intelligence artificielle complètement autonome pour faire votre CV et votre lettre de motivation à votre place? C'est ce que propose AIO Job que nous recevons dans le lab. Voilà le programme. Merci d'être avec nous. C'est parti. On vous sort de votre boîte.
Happy Boulot, le DRH de la semaine.
CARA, C-A-H-R-A, c'est le nom de ce cabinet nantais spécialisé en management de transition qui teste depuis le début de l'année un nouveau contrat, un CDI dit agile. Bonjour Steven Poineau.
Bonjour.
Merci d'être notre invité, vous êtes directeur général donc de CARA. Pas de fonction RH hein, chez vous, je commence par ça parce que généralement dans cette rubrique on reçoit le DRH de l'entreprise, mais en fait c'est un peu vous le DRH chez CARA.
Exactement, je suis le directeur général, il n'y a pas de DRH dans cette entreprise puisque c'est une fonction qui est transverse en réalité à l'ensemble des personnes présentes dans le cabinet.
Mais donc vous arrivez à gérer toutes les fonctions des ressources humaines en plus de votre métier de direction ?
Il faut savoir que notre métier, c'est un métier qui est dédié à la transformation par le management des ETI et des PME. Donc on a un modèle très singulier avec une équipe de managers de transition permanent.
Ouais. Combien de personnes dans vos équipes ?
Une cinquantaine d'employés, dont 40 managers permanents.
Entreprise nantaise ?
Exactement.
Mais présente, enfin, j'imagine que vous intervenez au-delà de la Loire-Atlantique ?
Partout en France et aussi à l'international avec une filiale en Italie.
Des ambitions pour s'exporter justement
C'est le premier pas à l'export que nous avons fait en Italie, à l'Europe. Et donc nous comptons bien en effet poursuivre cette dynamique d'export dans d'autres pays européens.
Alors, vous êtes à la tête de cette entreprise, hein, je le rappelle, directeur général de CARA, et c'est vous aussi qui vous occupez des fonctions RH. Ça vous empêche pas d'être créatif avec ce CDI agile que vous avez lancé dans votre entreprise en début d'année, qui se caractérise comment ?
Eh bien, le CDI agile, ça se caractérise par un contrat de travail à durée indéterminée
et qui va laisser... Comme le CDI traditionnel.
Le CDI traditionnel, mais qui va laisser la possibilité de pouvoir choisir son temps de travail sur une année civile. Donc vous pouvez déterminer, prédéfinir que vous allez travailler 8 ou 9 mois dans l'année.
Donc on a plus de liberté qu'avec le CDI actuel.
Exactement, c'est essentiellement un besoin de liberté pour répondre aux nouvelles attentes de nos managers.
Avec les mêmes niveaux de rémunération ?
Alors, ça va être au prorata, on va prendre la rémunération annuelle et puis on va la proratiser sur la durée définie. Donc lisser, évidemment, sur les 12 mois de l'année.
Qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie de lancer ce nouveau type de contrat ?
Eh bien déjà, c'était pour répondre aux nouvelles attentes de nos managers, hein, des attentes de liberté, de choix du temps de travail. Et nous souhaitions offrir des conditions de travail les plus favorables pour que ces managers puissent exercer le métier et s'y épanouir.
Parce qu'il y a un enjeu d'attractivité, il faut éviter la fuite des talents dans votre industrie.
C'est
aussi
un enjeu d'attractivité, de rétention des talents. Ouais. Et aussi, côté entreprise, de flexibilité pour gérer nos ressources et puis mieux gérer aussi dans un contexte économique tendu, le BFR, le cash. Donc on a créé ces conditions favorables qui permettent aux managers de se sentir dans un meilleur équilibre de vie professionnelle, vie privée et donc d'être aussi dans une posture modélisante pour intervenir chez les clients et accompagner les transformations.
Alors, comment ça se passe, Steven Poineau, quand vous accueillez un nouveau collaborateur ? Vous lui proposez les deux types de CDI, c'est-à-dire de CDI traditionnel que vous avez maintenu, j'imagine, et ce CDI agile, c'est lui qui choisit, c'est à la carte, comment ça fonctionne ?
C'est à la carte. On part des attentes du manager, des attentes du collaborateur. Je pense que de plus en plus d'entreprises fonctionnent sous ce format-là, en tout cas un format d'engagement réciproque où, en effet, le manager va avoir ses contraintes, ses enjeux personnels, et le CDI n'est pas une finalité en soi, mais Par contre, il souhaite un nouveau format de travail et le CDI Agile est une des options parmi d'autres véhicules contractuels que nous utilisons.
Mais je voyais en préparant l'interview que vous avez quand même un objectif de 10% des effectifs en CDI Agile. Est-ce que vous l'avez atteint déjà depuis le début de l'année ?
Aujourd'hui, sur une vingtaine de managers en CDI, nous avons 2 managers en effet en CDI Agile, ouais. Et nous avons 3 nouvelles demandes pour la fin d'année.
Donc vous allez peut-être le dépasser cet objectif ?
Fort probablement.
Ouais. À terme, c'est quoi l'enjeu ? C'est aussi de garder les personnes qui ont grandi dans votre entreprise pour éviter qu'elles partent chez la concurrence ?
Il y a un besoin, en effet, de fidéliser nos talents pour toujours garder, je dirais, la qualité de nos capacités de réponse. Cela nécessite, en effet, de développer les compétences de nos managers, puisque devenir manager de transition, nous considérons que cela ne se décrète pas. Et c'est cette vision métier que nous portons depuis l'origine de la création de ce cabinet.
Il faut continuer en permanence à trouver des nouvelles idées comme ça pour rester compétitif dans cette industrie.
C'est la clé de notre savoir-faire. Depuis l'origine, c'est d'être tourné vers l'innovation managériale et sociale. Et quand notre métier vise à accompagner des organisations et les équipes qu'ils nous confient à faire évoluer leurs pratiques de management, il est mieux de l'incarner. Ah oui. C'est le cordonnier bien chaussé en réalité.
Et justement, ça sera ma dernière question. Est-ce que c'est un concept, ce CDI Agile, que vous amenez dans les entreprises dans lesquelles vous intervenez en tant que manager de transition ?
Alors, je n'aurais pas la prétention de faire rayonner ce format de travail. Pour autant, aujourd'hui, c'est nouveau, c'est très récent. Nous espérons que cela puisse inspirer de nombreuses sociétés qui, comme nous, ont des personnes qui sont salariées et qui vont intervenir en prestation dans les entreprises. Ça pourrait inspirer les ESN, les cabinets de conseil.
En démontrant son efficacité.
Exactement. Aujourd'hui, nous avons 6 mois de recul.
Oui.
Pour le moment, les salariés qui ont choisi ce format sont heureux.
Et vous-même ?
Et moi-même, je suis heureux et fier de nos équipes puisque ça a été construit de manière collaborative par et pour nos managers.
Donc content d'avoir mis en place ce dispositif.
Très content.
Steven Poineau, directeur général de Cara, il nous reste 1 minute ensemble. C'est Théo qui nous amène tout de suite la boîte traditionnellement du DRH, mais aujourd'hui c'est la boîte du directeur général que vous êtes avec plusieurs papiers. On va en tirer au moins 1, 2 si on a le temps. Une phrase à compléter, je vous laisse nous la lire et nous répondre assez spontanément ce que vous mettriez derrière les points de suspension.
Dans ma boîte, je délègue quand je n'ai pas la réponse, quand je n'ai pas les idées. C'est nécessaire de s'entourer des personnes qui peuvent nous aider, puisqu'en tant que dirigeant, vous êtes vulnérable et vous ne détenez pas la vérité.
C'est bien de le savoir, parce que certains ont encore du mal à déléguer. Mais pas vous. C'est une qualité. Il nous reste quelques secondes, je vous laisse tirer un dernier petit papier.
Volontiers.
Dans ma boîte, dans votre boîte.
Dans ma boîte, je recherche des candidats qui... Des candidats qui incarnent, je dirais, une forme de management moderne et qui vont incarner une posture d'humilité, de non-jugement pour être dans une posture adaptative et dans une forme de don.
Et ça, on peut le déceler, vous qui justement, vous êtes en charge des RH, donc sûrement que vous faites passer des entretiens. Vous arrivez à le déceler lors du premier contact avec le candidat ?
Il s'agit en réalité de révéler le potentiel authentique de l'autre et pour cela, soyons nous-mêmes puisque les autres sont déjà pris. Et c'est la clé de l'authenticité.
Merci d'avoir joué le jeu, Steven Poineau, directeur général de Cara. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tout de suite, on appelle notre avocat.
On joint tout de suite Sabrina Kemel, avocate associée au cabinet FTMS Avocat, pour répondre à cette question. À la suite de pratiques managériales harcelantes, j'ai fait un burn-out. Je veux le faire reconnaître en maladie professionnelle. Quelle est la démarche à effectuer ? Écoutez.
Alors le burn-out, c'est une maladie qui est hors tableau, puisque pour faire reconnaître une maladie professionnelle, il y a une procédure particulière pour les maladies justement qui sont hors tableau. On passe par ce qu'on appelle le comité de reconnaissance régionale des maladies professionnelles. La procédure, c'est celle-ci. Je déclare ma maladie professionnelle, ce que j'estime être ma maladie professionnelle, à la caisse primaire d'assurance maladie, qui, elle, va se tourner vers le C2RMP, donc Comité de reconnaissance régionale des maladies professionnelles, qui, lui, va devoir estimer, analyser si ce burn-out eh bien, engendre une incapacité ou non de 25%. C'est 25% minimum ou plus. Et dans ce cas, eh bien, il fournira un rapport à la Caisse primaire d'assurance maladie qui rendra son rapport. De facto, si on est en deçà des 25%, le burn-out ne pourra pas être reconnu comme étant une maladie professionnelle. Si on est au-dessus, ce sera possible. Donc, la démarche, elle est un peu différente des maladies professionnelles qui sont dans un tableau, comme par exemple une tendinite, parce qu'elle prend plus de temps déjà, on est sur un délai de 6 mois, et qu'on passe par justement la case C2RMP.
Écrivez-nous vous aussi pour interpeller nos avocats en droit du travail à l'adresse happyboulot@bfmbusiness.fr. On vous répond toutes les semaines dans notre émission.
Happy Boulot, le meeting.
Faire du sport au travail, ça se fait peut-être dans votre entreprise. Les employeurs ont bien compris que cela participe souvent à remotiver les troupes et à réduire le nombre d'arrêts de travail, d'arrêts maladie, si bien qu'un vrai business se développe depuis quelques années. Bonjour Gatien Le Tartre.
Bonjour.
Vous êtes cofondateur de TrainMe, groupe Decathlon.
Effectivement.
Vous nous dites en deux mots ce que c'est que TrainMe.
En deux mots, on accompagne les entreprises dans leur programme de sport, bien-être et prévention santé, ouais, pour mettre en mouvement les collaborateurs et les collaboratrices.
Tout un programme, mais on va en parler parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont développées dans les entreprises. Il y a une prise de conscience. Face à vous, Corentin Schall, auteur de Mouvements répétitifs, posture au travail, vaincre les troubles musculo-squelettiques aux éditions InPress. Bienvenue Corentin.
Merci.
Vous êtes aussi responsable santé et sécurité au travail d'une entreprise d'agroalimentaire qui est située en Corrèze.
Exactement.
J'imagine que c'est ça qui fait que vous avez écrit ce livre.
En partie, aussi parce que j'ai été formateur pendant 5 ans dans cette problématique-là. Et je voulais aussi partager mes connaissances au grand public par un livre.
On parle du monde de l'entreprise pendant les 10 minutes qu'on a ensemble. Je disais, il y a une prise de conscience là récente. Enfin, ça fait quoi ? Ça fait quelques années qu'on comprend au cœur même de l'entreprise qu'il y a peut-être des choses à mettre en place pour que les salariés se sentent mieux. Gatien, Le Tartre.
Bah effectivement, moi j'ai l'habitude de dire on a lancé l'entreprise en 2015 et depuis quelques années on nous demandait mais pourquoi tu fais ça, et maintenant depuis quelques années on nous demande comment. Il y a vraiment une prise de conscience.
En 10 ans ça a changé.
En 10 ans il y a eu vraiment des changements. Pourquoi ? Parce que notamment la qualité de vie au travail est devenue un enjeu majeur dans les entreprises et notamment dans les directions des ressources humaines. Pour la marque employeur notamment, attirer et garder les talents avec un marché de l'emploi qui s'est tendu, et le sport et l'activité physique en entreprise est un des moyens pour répondre à améliorer la marque employeur des petites, des moyennes et des grandes entreprises.
Corentin Schall, vous, c'est votre métier. Est-ce que c'était plus difficile il y a 10 ans de faire comprendre à l'employeur qu'il fallait mettre en place un certain nombre de choses ? Alors, sans forcément parler du sport, mais des dispositifs pour qu'on se blesse pas, qu'on se fasse pas mal. Je pense par rapport à aujourd'hui.
Je pense qu'il y a 10 ans, les entreprises étaient très portées sur les TMS, les troubles musculo-squelettiques et la formation, mais pas forcément sur d'autres pratiques qui pouvaient amener à d'autres améliorations du bien-être au travail. On parlait de la QVT exactement. Entre autres, l'activité physique, pour les entreprises, c'est aussi un gage d'un facteur pour la santé de leurs salariés, de pouvoir créer une cohésion d'équipe, un sentiment d'appartenance. On est dans une génération qui commence à arriver où ils ont besoin de savoir dans quel environnement ils vont travailler. Et donc, l'activité physique, la pratique d'une activité physique dans l'entreprise va souder, en fait,
oui,
ces gens.
Oui, parce que ce n'est pas que de l'amusement. Parce que parfois, certaines directions peuvent se dire le travail, c'est le travail. Mmh. Et puis, à côté, les activités, c'est autre chose. On prend conscience aujourd'hui que c'est plus compliqué que ça.
Ben avant c'était un peu ça, c'était au travail il fallait travailler.
Ouais.
Alors, on a encore quelques salariés qui sont encore ça. Alors, moi je viens ici pour travailler et pas pour m'amuser avec mes collègues. Mais on voit qu'il y a une ouverture quand même des entreprises sur ce domaine-là. Et puis il y a des études qui ressortent qui montrent que aussi pratiquer une activité physique dans l'entreprise, c'est aussi moins d'absentéisme chez les salariés, c'est moins de turnover, c'est plus de productivité aussi. Il y a quelques études qui ont montré qu'on allait jusqu'à 6 voire 9% de gains de productivité. Donc il y a vraiment autre chose que le bien-être au travail.
Et complètement. Et justement pour compléter ce que vous disiez tous les deux, c'est que nous on veut pas, dans les programmes qu'on propose, on veut pas simplement être un avantage collaborateur, donc comme un simple amusement, un simple moyen de faire du sport. On veut vraiment s'intégrer dans la stratégie d'entreprise avec ce retour sur investissement pour l'entreprise, comme vous le disiez, sur les gains de productivité, sur l'absentéisme et sur le turnover. Et ça, c'est vraiment important et c'est rentré vraiment dans les politiques des ressources humaines des entreprises.
Et là-dessus, on a des chiffres. Moi, je voyais dans les chiffres que vous nous apportez, en tout cas, quasiment 9 entreprises sur 10 constatent des effets positifs, en particulier sur la cohésion d'équipe. Ça veut dire que le tester, c'est l'approuver d'une certaine manière.
Et exactement. Ouais. Après, le plus dur des fois, c'est de le mettre en place.
Oui.
Les difficultés dans l'étude qu'a fait Decathlon, ouais, avec Trainmi, c'était ça qui ressortit, c'était cette difficulté de l'engagement, de créer quelque chose de pérenne. Mais on voit qu'il y a ça. Quand les entreprises sont vraiment en train de développer ce système d'organisation, ouais, de travail avec la pratique d'activité physique, il y a des gains qui se font.
Et complètement. Et effectivement, l'étude qu'on a faite avec Decathlon montre que 88% des entreprises sont satisfaites et voient des bénéfices. Donc ça, c'est hyper hyper important. Et justement, en création de liens, nous, on a des exemples très concrets dans des entreprises où des départements d'achat ne parlaient pas avec le département marketing. Et ça crée du lien, de la cohésion sociale au-delà du bien-être, de la santé mentale et de la santé physique. Ça permet du lien. Et donc, pour l'entreprise, c'est tout à gagner parce que ça peut débloquer des problématiques du quotidien qui sont liées au travail. Donc, en fait, on se rend compte que c'est pas simplement de l'amusement, oui, mais c'est vraiment dans la dynamique de l'activité de l'entreprise. Et pour compléter, oui, sur l'impact que ça a, par contre, on a noté dans l'étude qu'on a faite en cette année, janvier 2024, c'est que les personnes percevaient, on a interrogé plus de 800 entreprises, les personnes percevaient du positif, mais par contre, avaient du mal à le mesurer de manière directe et économique.
Des salariés ?
Non, je parle vraiment des dirigeants, employeurs, des employeurs, des directions des ressources humaines. On a interrogé plus de 800 sur toute la France, collectivités d'ailleurs et entreprises privées. Faut pas oublier nos amis du public qui est le premier employeur en France. Et on a vraiment voulu interroger tout le monde. Et il y a un besoin d'avoir une mesure indicative avec des indicateurs très précis, comme on peut avoir sur la partie marketing, comme on peut l'avoir sur la partie vente, pour vraiment que ça rentre au même niveau que certains d'autres indicateurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, en plus, l'Europe va imposer dans des éléments extra-financiers la partie santé et bien-être des collaborateurs. Donc ça va vraiment rentrer dans la stratégie et même extra-financière de l'entreprise.
Corentin Chal.
Non, mais je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Après, on pourrait mesurer aussi l'impact sur la partie TMS. C'est ce que je développe aussi
dans. Troubles musculo-squelettiques.
Troubles musculo-squelettiques, ouais, dans le livre.
Et ça concerne qui? Parce qu'en fait, on se disait jusqu'à encore quelques années, c'est quoi? C'est le travail à la chaîne, c'est dans les usines. Okay. Aujourd'hui, le fait d'être aussi immobile, oui, donc à un bureau derrière une chaise, sur une chaise derrière un ordinateur, on a les mêmes types de maladies.
En fait, avant, c'était très stéréotypé. TMS égale à la chaîne, gestes répétitifs, port de charges lourdes. Donc on s'est très concentré dans les formations sur cette population-là, on va dire, d'entreprise. Mais en fait, à un moment donné, il y a aussi des personnes du tertiaire qui se sont réveillées en disant « Oui, mais nous aussi, on a mal au dos, nous aussi, on a des problèmes de cervicales, des douleurs, des tendinites, des canaux carpiens. » Donc l'idée aussi de la pratique physique en entreprise, c'est par des échauffements ou par des étirements, ou même du renforcement musculaire, va permettre aussi de pouvoir lutter contre cette sédentarité des personnes qui sont en situation assise au quotidien, et donc de pouvoir les prévenir contre ces TMS.
Ouais. Gatien Le Tartre, chez cofondateur de TradeMe du groupe Decathlon. Il faut aussi que les directions d'entreprise investissent dans les infrastructures. Je pense aux vestiaires, aux douches. On peut pas se dire du jour au lendemain, bon, on va faire des cours de yoga, de stretching, je ne sais quoi. Mais en fait, derrière, on peut pas, y a pas l'infrastructure, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même des investissements à penser.
Alors, déjà, effectivement, dans notre étude, on voit que les deux plus gros freins sont le manque d'espace et le manque de budget pour la mise en place de programmes sport en entreprise. Mais la première chose, c'est que souvent, il y a un peu un mythe autour de l'espace. Nous, par exemple, avec le bon matériel, le bon cours, on arrive à faire des cours, par exemple, sur l'heure du midi, dans les salles de réunion qu'on va aménager spécialement pour le midi, et ensuite, ça revient les salles de réunion. Donc, des espaces multimodales. Et ensuite, il y a aussi nous, avec de l'aménagement, on va mettre en place des choses assez simples, comme des pédaliers, comme des Swiss balls où vous êtes assis sur une, qui vous permettent de vous apprendre à bien vous maintenir. Aussi, promouvoir tout simplement l'utilisation de l'escalier versus l'ascenseur. En fait, il faut aller plus loin. Et effectivement, les douches et les vestiaires sont un plus, et nous, on va en profiter quand ils sont. Mais il y a plein de choses à mettre en place qui sont très simples, que ça soit des cours pendant l'heure du midi ou à l'heure du ou alors le soir, et aussi dans l'aménagement des bureaux et de l'espace de travail pour que les gens se mettent en mouvement.
Vous, Corentin Chal, dans votre entreprise, vous poussez à ça aussi?
Oui, alors moi, en interne, je fais formation sur les échauffements, la sensibilisation sur les échauffements. Un échauffement, on n'a pas besoin d'une salle. Hein. Une personne arrive à 3h du matin sur son poste ou 4h du matin, qui commence très tôt le matin, il est à froid, je suis devant mon poste avant de démarrer, je m'échauffe.
Ça, c'est pour Laure Closier qui présente la matinale sur BFM Business, j'espère qu'elle nous écoute.
Mais je veux dire, même le poste de travail, parce que là on parle souvent des bureaux, mais le poste de travail en lui-même d'une personne qui est derrière sa machine en train de tourner, peut totalement faire un échauffement, un étirement, quelques exercices qui vont lui permettre de se dynamiser durant la journée et de récupérer sur ses tensions musculaires qu'il a pu accumuler par son travail.
Bon, en tout cas, les salariés, eux, ils sont prêts à consacrer du temps à la pratique du sport organisée par leur entreprise. C'est une étude Harmonie Mutuelle l'année dernière qui nous dit qu'ils sont 8 sur 10 à être prêts. Donc maintenant, c'est quoi ? Il faut y aller et parler avec les directions d'entreprise pour peut-être qu'elles accélèrent. C'est l'année des Jeux Olympiques, c'est l'occasion.
Bah, effectivement, il faut savoir que ça fait partie de l'héritage des Jeux Olympiques. Le gouvernement veut transformer la France en nation sportive et le sport, l'activité physique en milieu professionnel, donc dans l'entreprise, est un des éléments pour y arriver, comme il y a l'école ou l'université. Et donc, on fait partie de cet engouement, notamment à travers la grande cause nationale qui est portée par le ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et donc ça, c'est hyper important de se rendre compte que c'est un enjeu aussi de sanitaire et social. Et on doit en faire partie, nous, en tant qu'acteurs du sport en entreprise. Et c'est pour ça que Decathlon a vraiment, à travers cette étude, à travers l'héritage, un besoin. Et il y a vraiment une pédagogie qui a été faite. Très, très importante.
Merci beaucoup, messieurs Gatien Letard, cofondateur de Trainmi du groupe Decathlon, et Corentin Chal, auteur de Mouvements répétitifs, posture au travail, vaincre les troubles musculo-squelettiques aux éditions InPress. Merci d'avoir été avec nous. C'est l'heure de la carte blanche. Avec Stéphane Moriou, mon cher Stéphane, on vous retrouve. Vous nous parlez des conflits entre générations et de leur utilité parfois.
Les conflits entre jeunes et anciennes générations sont une question qui taraude notre espèce depuis au moins l'Antiquité. Notre époque n'échappe pas à son lot d'incompréhensions. Il me semble que lorsque l'on parle de génération, les variables ont moins d'importance que les fonctions. À quoi sert un conflit intergénérationnel ? Quelle est sa fonction ? Je crois qu'il a la vertu de l'interrogation. Chaque génération vient avec un ensemble de valeurs, de critiques, d'espoirs, de convictions. Ces changements de paradigme permettent à la société tout entière de s'interroger. Ensuite seulement, il faut s'intéresser aux variables. Aujourd'hui, les jeunes ont une quête de sens qui dépasse le statut ou l'argent. Ils donnent la primauté à la satisfaction immédiate de leurs désirs et ont du mal avec le long apprentissage de la patience. Ils refusent les autorités séculaires par soumission et prônent une nouvelle forme de rapport fondée sur l'engagement. Une fois que l'on a compris cela, on réalise que la solution ne se trouve ni dans la critique, ni dans le dénigrement. Elle est dans la création de dialogues permettant aux différentes générations de combiner leurs idées afin de continuer à faire progresser la société et notre humanité.
Happy Boulot, le Lab.
Avec Camille Bourg que l'on retrouve, et aujourd'hui une boîte qui a mis au point une intelligence artificielle qui peut aider ceux qui cherchent du travail, Camille.
Oui, aujourd'hui on reçoit Jérémy Duris, vous êtes directeur général de Twinning Group, filiale d'Aoi Job, qui permet notamment de créer des CV et des lettres de motivation via l'intelligence artificielle. Comment est-ce que ça fonctionne concrètement ?
Bonjour, merci de me recevoir. En fait, aio-jobs.com, c'est un site emploi qui regroupe 90% à peu près de l'ensemble des annonces emploi sur le web. Donc il y en a 650 000 aujourd'hui. Quand on sait qu'il y en a à peu près 800 à 900 000 sur Pôle emploi, ben voilà, on représente quand même une certaine force en fait sur le web. Donc 650 000 offres d'emploi. Le candidat arrive sur l'offre d'emploi et il peut générer automatiquement et de manière personnalisée un CV et une lettre de motivation. L'objectif pour le candidat, c'est de pouvoir postuler très rapidement. Et un truc qui leur plaît beaucoup dernièrement, c'est qu'on met en place en fait la candidature automatique. Donc en quelques clics, une fois qu'il a fait sa première candidature, il va pouvoir paramétrer en fait la candidature automatique, donc postuler pendant qu'il dort, postuler pendant qu'il mange, etc.
Il n'y a plus rien à faire, quoi. Alors, le CV fait par l'intelligence artificielle, j'en avais déjà entendu parler, mais la lettre de motivation, on est sûr que ça marche, ça ?
Alors, le CV et la lettre de motivation, au final, c'est juste une extension de ce qu'est l'offre d'emploi. Aujourd'hui, la problématique principale dans le recrutement, c'est les CV génériques. C'est-à-dire que vous et moi, on a tous fait des CV, on en fait un, et puis après, c'est compliqué quand même de refaire un CV à chaque fois qu'on a une offre d'emploi qui nous plaît. Et donc, le principal problème, c'est ça. Donc, on se retrouve avec énormément de CV qui sont envoyés dans les entreprises. Les entreprises n'arrivent pas à les traiter, vous recevez pas de candidature, la marque employeur est handicapée, c'est un problème.
On doit repasser derrière, non ? L'IA, elle nous fait une lettre de motivation, il faut quand même un petit peu la personnaliser, ajouter...
L'objectif, c'est de la personnaliser, et l'objectif derrière, c'est simplement de fournir une trame qui va faire gagner du temps à tous ceux qui travaillent en 3-8 par exemple, à tous ceux qui n'ont pas le temps parce qu'il y a beaucoup de papa et maman solo, par exemple, qui s'occupent de leurs enfants, qui n'ont pas le temps de postuler, à tous ceux qui ont des formes d'handicap également, ça va s'adresser à tout le monde.
Et comment est-ce qu'on la réadapte du coup aux différentes offres d'emploi auxquelles on postule ?
Vous avez une trame en fait qui s'affiche une fois que vous avez été sur une offre d'emploi qui vous intéresse. Et là, vous allez pouvoir en fait maîtriser et contrôler, paramétrer votre trame et la faire vôtre en fait, et faire en sorte qu'elle vous représente parfaitement. Une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à enregistrer ce template et vous allez pouvoir derrière le programmer en automatique sur des offres. Et tous les dimanches, le logiciel vous envoie un mail pour vous demander si vous continuez à chercher ou pas.
Vous avez des retours sur l'efficacité ?
Oui, alors les candidatures sont beaucoup plus qualifiées. On a 30% de qualité en plus, évidemment, vu qu'on appuie sur un bouton pour déclencher un CV qui ressemble parfaitement à ce qu'est l'offre d'emploi. Forcément, c'est plus qualifié. Donc, il y a beaucoup plus de qualité. Les entreprises derrière, elles reçoivent des CV plus qualifiés, donc elles ont beaucoup plus intérêt à prendre leur téléphone et contacter les candidats. Et vraiment, l'intérêt premier, c'est ça. Parce qu'un CV, pour ou contre, il y a beaucoup de débats à ce niveau-là. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de créer plus de matching et plus de création de liens entre l'entreprise et le candidat.
Ma petite question, c'est aussi, est-ce que ça coûte de l'argent à un candidat d'utiliser vos services ?
Alors, c'est totalement gratuit. Nous, ça nous coûte de l'argent, évidemment, parce que on a développé un logiciel, que travailler l'IA, forcément, en fait, ça coûte de l'argent.
Vous y gagnez derrière, non ?
Bah, évidemment, on a des entreprises qui, elles, reçoivent des CV plus qualifiés. Donc, elles ont envie, en fait, de poster leurs offres sur notre site. Et donc, par ce biais-là, forcément, on va pouvoir vendre nos services.
Donc, les entreprises, parce que vous disiez tout à l'heure que vous récupériez les offres qui étaient en ligne, mais en fait, ce sont les employeurs qui vous envoient les offres.
Exactement. Ouais. Exactement. Ouais. Donc, les employeurs, dans la grande majorité, vont pouvoir nous envoyer leurs offres. Une fois qu'on a leurs offres, on va pouvoir les diffuser et les candidats vont pouvoir se positionner. Ils vont pouvoir recevoir derrière toutes les candidatures. Et on a mis en place du tri de CV automatique pour les entreprises. Parce que du coup, quand on reçoit beaucoup de CV qui sont très qualifiés, ce qu'il faut, c'est pouvoir les trier. Là aussi, la machine et là aussi l'IA peut aider les entreprises à ce niveau-là.
AIO-jobs.com. Merci beaucoup, Jérémy Duris, directeur général de Twinning Group, dont AIO Jobs donc est une filiale. On l'a bien compris. Merci d'avoir été avec nous et de nous avoir présenté cette innovation dans le lab d'Happy Boulot. Merci Camille.
Merci.
Camille Bourg avec nous aujourd'hui dans Happy Boulot. C'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouvez cette émission en replay, en podcast. Abonnez-vous pour recevoir les nouveaux épisodes. Merci à Flo Elban qui était aux manettes en régie. On se retrouve le week-end prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, soyez heureux au boulot.
Happy Boulot, l'émission qui vous sort de votre boîte.